La prestigieuse école Sciences Po a officiellement sa chaire dédiée aux Outre-mer. La conférence inaugurale a eu lieu le jeudi 8 juillet à Paris. La chaire Outre-mer a été créée par la loi Égalité réelle Outre-mer. Elle doit permettre de mieux étudier et mieux faire connaître les enjeux des territoires ultramarins. Radio Mayuri Campus était sur place. Je vous propose de suivre notre reportage. Nous avons ainsi pu interroger Monsieur Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer.
Monsieur Lecornu, comment cette chaire pourra-t-elle répondre à des problématiques que rencontre la Guyane, notamment dans le domaine de l'évolution statutaire qui est d'actualité?
En fait, on a besoin de recherche parfois pour guider des solutions pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est autant le Parlement, le gouvernement, mais également les élus locaux de Guyane. Vous voyez, ça fait des années qu'on parle de mettre un certain nombre de normes mises à l'échelle de la Guyane. La Guyane, c'est grand comme le Portugal. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes réglementations pour une forêt chez moi dans l'heure que les mêmes réglementations pour la forêt guyanaise? La réponse est non, par exemple. Donc ça, ce sont des outils de recherche qui sont importants parce que ça vient donner des idées. Ça vient aussi expliquer l'histoire. Pourquoi on a telle organisation? Pourquoi on se retrouve dans telle ou telle situation en matière d'organisation, par exemple, des services publics, ou tout simplement pourquoi on a fait l'unification du département et de la région en Guyane pour faire une seule collectivité unique? Mais il y a une histoire politique à ça, il y a une histoire juridique à ça. Et c'est pas le boulot ni des journalistes, ni des hommes ou des femmes politiques, ni du monde économique que de retracer cette histoire. Il faut des historiens, il faut des juristes. Et donc ici, on met des moyens pour faire avancer justement cette recherche-là. Et puis, pardon, mais ça donnera aussi une véritable vitrine. Ça veut dire que vous aurez concrètement des jeunes Guyanaises et des jeunes Guyanais qui pourront suivre un cycle d'études ici à Sciences Po, être diplômés de Sciences Po et suivre une formation qui leur rappellera leurs racines et dont ils seront aussi des ambassadeurs pour la suite. Ça s'appelle aussi tout cela, ça s'appelle niveler par le haut et c'est une fierté républicaine.
La collectivité de Guyane, parlons-en, qui vient de basculer à gauche, voire extrême gauche, quelle est votre analyse de la situation?
Moi je suis un républicain, je suis un élu. Moi-même d'ailleurs j'ai été élu, donc je pars du principe que le suffrage universel, il est le seul qui vaille, il est le seul légitime. Je connais bien le député Serville, devenu président. Nous avons déjà l'occasion de travailler avec lui. Je veux lui dire, et je le dirai prochainement, parce que j'ai évidemment entendu rencontre avec lui, que moi je serai un partenaire républicain, fiable. Je ne considère pas qu'il y a la collectivité d'un côté et l'État de l'autre, parce que, évidemment, ce n'est pas ma manière de voir la politique. Il y a surtout une mission de service public à rendre. Les Guyanaises et les Guyanais veulent des résultats, donc ils ne veulent pas avoir de division inutile. En tout cas, moi j'ai déjà des choses à dire au président Serville.
Martial Foucault, directeur du Centre de recherche à Sciences Po.
Oui, Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po, directeur du CELIPOF et récemment titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po.
Alors, quelles sont les ambitions, les grandes ambitions de cette chaire dont la cérémonie inaugurale vient de se dérouler il y a un instant?
Tout d'abord, ça a été un vrai succès. J'avoue que j'étais très surpris du nombre de personnes présentes ce matin dans notre grand amphithéâtre Boutmy. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt très très fort pour cette chaire et pour les chantiers qu'elle entend déployer. Je dirais qu'il y a trois grands chantiers. Il y a un chantier de recherche, faire en sorte que cette chaire soit un moment dans le paysage académique, un moment où on puisse à la fois fédérer tous qui existe, mais aussi engager une nouvelle manière de penser le fait ultramarin en faisant en sorte que ce ne soit pas simplement le fait ultramarin pour l'espace francophone, mais vraiment pour l'espace mondial. Et ça, il y a une ambition, une volonté, un besoin de comparaison des outre-mer entre eux, outre-mer français, mais des outre-mer danois, britanniques, hollandais, australiens. Il y a une variété, une cartographie des outre-mer qui nous oblige à repenser la manière dont on pense précisément ces questions d'insularité, par exemple. Ensuite, il y a une deuxième exigence qui est une exigence pédagogique. Nous sommes dans un établissement, nous avons 14 000 étudiants, plus de la moitié de nos étudiants sont internationaux et aujourd'hui, arrivés à Sciences Po, on peut passer 3 ans, 5 ans sans avoir un seul cours sur les Outre-mer. Donc, la chaire va travailler et s'est déjà engagée avec notamment le collège, donc les 3 premières années, pour installer des cours sur les Outre-mer. Un étudiant ne pourra plus quitter Sciences Po sans avoir eu dans le cadre de son cours sur la France un cours sur les Outre-mer. Donc ça, c'est notre premier engagement sur le plan pédagogique. Et un deuxième engagement, nous avons également des conventions d'éducation prioritaire avec les lycées dans les Outre-mer. Plus d'une vingtaine de lycées sont conventionnés avec Sciences Po. Donc c'est-à-dire que nous travaillons à l'arrivée des étudiants ultramarins à Sciences Po. Moi, je souhaite que la chaire ne se contente pas simplement d'accueillir les étudiants une fois arrivés à Sciences Po Paris, mais que l'on ait également une possibilité de co-construire des formations avec les lycées pour que les étudiants qui souhaitent rejoindre les rangs de Sciences Po sachent qu'en amont et en aval, il y a une chaire qui est préoccupée par leur destin, par leur réussite, et à l'issue de la formation à Sciences Po, pour ceux et celles qui seront admises, je souhaite que la chaire leur permette, en fait, que ce soit le coup de pouce professionnel qui leur permette d'accéder à des stages ou à des emplois pour lesquels nous avons des interlocuteurs privilégiés.
Les territoires d'outre-mer sont différents de par leur positionnement géographique, leur histoire. Comment allez-vous faire pour permettre à ces territoires de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir se reconnaître sur des thématiques diverses?
Alors, c'est un sujet crucial que vous évoquez. Effectivement, ce matin, on a eu l'occasion de comprendre qu'il y avait une demande de comparaison, mais pas simplement une comparaison des Outre-mer avec le reste des territoires ou le reste des pays, c'est une comparaison à l'intérieur des Outre-mer. La question, on a beaucoup parlé ce matin de la Nouvelle-Calédonie et du processus référendaire. Comprendre le rapport à l'autonomie, le rapport à la décentralisation. En Nouvelle-Calédonie, que pense le bassin des Antilles, que pensent les Martiniquais, les Réunionnais, les Guyanais de ce processus de décentralisation et ce processus d'autonomie? Donc ça, c'est un vrai travail. Donc nous, chers Outre-mer, on doit identifier avec plusieurs acteurs, pas seulement des acteurs politiques qui seront au cœur de notre démarche, mais aussi des acteurs issus de la société civile et différentes associations. Identifier les thématiques sur lesquelles entretenir, enrichir, même susciter le dialogue entre les Outre-mer, quelles sont ces thématiques, parce qu'on ne va pas pouvoir travailler sur toutes les thématiques. Donc on doit identifier celles qui nous semblent les plus importantes. Ça va être le premier temps. Et dans un deuxième temps, nous savons que il faut être très prudent. Nous ne pouvons pas dire « Cher Outre-mer, ici, à Sciences Po, à Paris, va organiser ce débat ». Donc on doit le décentrer. On doit également le déplacer. Donc moi, je compte beaucoup sur des partenaires dans les Outre-mer pour être les relais de notre démarche. Et je pense qu'il ne sera pas très difficile de convaincre des personnes de nous accompagner dans cette démarche de dialogue, de compréhension, et qu'ensuite, notre chaire, ici à Sciences Po, puisse faire un peu la synthèse de ces éléments de dialogue. Ça, c'est le premier point. Et pour répondre complètement ou entièrement à votre question, vous disiez il y a des singularités entre nos Outre-mer. Alors oui, ils sont évidents, mais si je prends un exemple, pensons par exemple à la question de l'orpaillage en Guyane, un sujet qui n'a pas d'écho à La Réunion ou à Mayotte. Bon, cela veut dire que nous, on doit comprendre aussi ce sujet dans l'environnement de nos Outre-mer. Et c'est pour ça que la chaire va mettre l'accent sur ce qu'on a appelé peut-être de façon très grandiloquente, mais la géopolitique des Outre-mer ou les intégrations régionales. Il ne faut pas simplement voir les Outre-mer dans la relation avec l'Hexagone ou les Outre-mer entre eux, mais c'est aussi l'environnement des Outre-mer. Je pense que, par exemple, la question de la mobilité des étudiants, quand on est dans le bassin atlantique, si aujourd'hui on ne se pose pas ces questions, alors on ne comprend pas pourquoi beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Guadeloupéens sont attirés par les universités nord-américaines, au Canada, aux États-Unis. Et donc on doit comprendre l'environnement dans lequel ces Outre-mer se situent et cesser de penser qu'on est simplement dans une relation exclusive Outre-mer et l'Hexagone.
Magali Danican, l'ancienne présidente de Sciences Po, une association qui promeut la culture des territoires d'outre-mer à Sciences Po.
Je suis Magali Danican, j'ai 21 ans et je suis en Master 1 en Affaires publiques à Sciences Po. Et je suis l'ancienne présidente donc de Sciences Po, qui est l'association des Outre-mer à Sciences Po Paris. Voilà.
Alors vous participez à cette chaire qui vient d'être lancée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter concrètement comme connaissance à la jeunesse ultramarine?
Alors pour nous, c'est une très très grande fierté d'avoir cette chaire qui s'ouvre aujourd'hui pour deux choses, parce que du coup on va continuer le travail qui a déjà été mené avec les étudiants, celui de promouvoir les Outre-mer, de promouvoir nos cultures, nos territoires, d'un point de vue un peu plus sérieux, un peu plus académique. Et je pense que la chaire d'Outre-mer pourra apporter cet avantage et ce plus à Sciences Po, mais aussi aux étudiants de Sciences Po et dans une plus large mesure, je pense, à la France. Voilà.
Alors, vous qui êtes étudiante à Sciences Po, est-ce que les problématiques d'outre-mer sont suffisamment, à vos yeux, abordées dans cette grande institution ?
Alors, c'est une question qui se pose beaucoup pour nous. On a constaté qu'il y avait ce manque, je pense, important au niveau de notre institution, de cours, de thématiques qui abordaient les outre-mer et même dans la manière de construire les cours. On a constaté qu'il y a vraiment ce manque de réflexe ultramarin. Et je pense que cette chaire, elle vise vraiment à corriger ce défaut qui est d'insérer, d'insuffler vraiment cette idée ultramarine ambiante dans les esprits afin que les futurs leaders de demain pourront jusqu'à avoir cette connaissance un peu plus fine de nos territoires.
Alors, pour les étudiants guyanais, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, ceux qui hésitent encore sur leur avenir professionnel et en termes de projet également au niveau de leurs études?
Alors, c'est une question qui est vaste. Déjà, je dirais à la jeunesse guyanaise de s'accrocher, de ne pas hésiter à arriver, d'oser, ambitionner en tout cas l'excellence, que ce soit à Sciences Po, mais dans d'autres écoles, que s'ils ont des rêves, que s'ils veulent être aviateur, que s'ils veulent être politicien, s'ils veulent être médecin, qu'ils doivent oser, que ce soit aussi dans leur territoire, mais aussi à l'extérieur, ils peuvent voyager, ils peuvent découvrir le monde et aussi apporter leur richesse au monde. Et je pense qu'il faut garder ça en tête aujourd'hui, alors que nous vivons des temps quand même difficiles avec cette période de Covid où les jeunes sont laissés pour compte, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Moi, je pense qu'il faut continuer à rêver, il faut continuer de rêver, il faut ambitionner l'excellence, comme le dit très bien Sciences Po. Et je pense que nous avons une force ultramarine qui est la résilience. Les étudiants qui partent étudier à l'étranger, nous sommes presque la majorité des étudiants à partir. En fait, de territoire ultramarin, et nous avons cette force d'esprit de continuer d'aller jusqu'au bout. Et ça, je pense qu'il faut cultiver cette force, il faut la garder et en faire, je pense, un point d'honneur. Voilà. Donc, bon courage à la jeunesse guyanaise.
Alors, Sciences Po est assez généraliste. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez faire comme métier ?
Pas très bien. Je réfléchis énormément parce qu'il y a justement énormément de possibilités qui s'offrent à moi en tant qu'étudiante à Sciences Po. J'aime beaucoup l'administration, j'aime beaucoup la politique, j'aime beaucoup le journalisme, j'aime tout. Donc je me laisse porter par le vent.
Est-ce que vous encouragez les Guyanais à rejoindre également Sciences Po? Si oui, quels sont les efforts auxquels ils doivent s'attendre?
Et alors, il faut, je pense, beaucoup de travail, parce que généralement, quand on arrive de loin, de très loin comme ça, on a souvent ce décalage entre le niveau scolaire qu'on peut avoir au lycée et l'attente universitaire qu'on peut rencontrer. Donc je pense que beaucoup de travail, une certaine rigueur, lire énormément, je pense, c'est important, soit la presse, mais aussi la littérature, pour avoir une culture générale, une culture du monde, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas seulement s'en dans notre territoire, mais aussi découvrir le reste du monde. Donc lire, écrire peut-être, si et c'est aussi s'adonner à ses passions. Si on aime la musique, qu'on le fasse pleinement. Si on aime le chant, la danse, vraiment être un citoyen qui est conscient, mais aussi un citoyen talentueux. Je pense que c'est important, ces deux choses qui sont importantes pour réussir sur nous. Voilà.
Et enfin, un extrait du discours de la ministre de la Recherche scientifique et de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal.
Il y a de cela 40 ans, lorsque l'on débattait au Parlement du premier acte des lois de décentralisation, Aimé Césaire Clépard, ou plutôt, selon ses propres mots, rentra par effraction dans la discussion. Pour souligner que pas une seule fois dans le projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n'a pas resté le mot outre-mer. Dans le même temps, les outre-mer étaient les grandes oubliées de l'historiographie française, absente d'ouvrages majeurs comme les lieux de mémoire de Pierre Nora ou l'identité de la France de Fernand Braudel. Nos Outre-mer doivent désormais être au centre des préoccupations de nos politiques. Le terme même d'Outre-mer arrase la diversité de ces territoires sous un vocable unique et occulte leur lien avec leur environnement proche en se focalisant sur la distance qui les sépare du centre métropolitain. Combien de nos concitoyens savent situer les Outre-mer sur une carte? Combien mesure l'appui géopolitique que constitue cette présence française dans trois océans et deux hémisphères? Combien ont conscience que la forêt amazonienne est pour partie française, que la France est aussi subarctique, que le soleil ne se couche en réalité